Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série très importante et nous arrivons à l'étude numéro 9. Je me suis arrangé pour pouvoir la faire en une seule fois. Je l'espère. Donc c'est l'étude numéro 9 et le thème sera un appel pour notre génération actuelle. Le thème principal c'est, comme vous le savez, tu n'as, toi qui écoutes maintenant, tu n'as qu'une seule vie, mais elle est bientôt passée. Tu n'as qu'un aller simple dans ta vie. Chers amis, Dieu est en train de débusquer certains d'entre nous. Il est un peu comme un chien de chasse céleste qui entend bien nous rendre plus heureux dans certaines tâches périlleuses et désagréables. Les missionnaires et les ministres, les serviteurs de Dieu, féminins et masculins, avaient des compassions certaines, plutôt certes, affermies, ne sortent pas simplement de nulle part, pas du tout. Ils sont l'œuvre de personnes comme vous et moi, émerveillés par la gloire divine et stoppés un jour dans leur course. C'est arrivé parfois alors qu'elles étaient engagées dans une direction radicalement opposée. Il en est allé ainsi pour un nommé Adoniram Judson, le premier missionnaire américain outre-mer. Il s'est embarqué sur un navire avec sa femme à l'âge de 23 ans. Alors qu'ils étaient mariés depuis 12 jours seulement, il a passé le restant de sa vie à amener la Birmanie sous l'influence de Christ et à contribuer au bonheur éternel de ses habitants en Dieu, étant comme attristé et pourtant toujours joyeux. Mais auparavant, auparavant le Seigneur avait dû opérer une transformation totale en lui, et il l'a fait d'une manière tellement saisissante que Judson, ou est-ce que je dois dire à la française Judson, n'a jamais oublié les actes de providence dont il avait bénéficié pour sa conversion. Il était fils de pasteur, il était un garçon très brillant, sa mère lui avait appris à lire alors qu'il avait seulement 3 ans, en une semaine seulement, pour surprendre son père au retour d'un voyage. À 16 ans, il entrait à l'université de Rhode Island, rebaptisée ultérieurement Brown University, où il passait directement en deuxième année. 3 ans plus tard, il sortait comme étant le premier de sa promotion, et il était diplômé et il avait le diplôme en poche. Ce que ses parents pieux ignoraient malheureusement pour l'instant, c'était que Adoniram s'était détourné de sa foi et il a été détourné par un jeune étudiant déiste, païen, qui ne croyaient pas du tout en Jésus-Christ. Son nom était Jacob Immens, ou Immens. À la fin de ses études à l'université, Judson n'adhérait plus à la foi chrétienne. Il a caché cela à ses parents jusqu'à ses 20 ans. Là, il leur a brisé le cœur en leur annonçant qu'il reniait la foi et désirait se consacrer à une carrière d'auteur de théâtre. Il a ajouté qu'il cherchait à se rendre à New York, ce qu'il a fait 6 jours plus tard. La vie qu'il a découverte, eh bien, cette vie ne s'est pas révélée tout à fait celle de ses rêves. Il a suivi une troupe, un certain temps, une troupe d'acteurs itinérants, et comme il l'a avoué plus tard, il a vécu une vie faite d'imprudence et d'errance, se logeant là où il le pouvait et s'acquittant de ses dettes de loyer quand se présentait une occasion. Alors, le dégoût de ce qu'il avait trouvé a marqué le début de plusieurs actes de providence très remarquables. Dieu resserrait son filet sur Adoniram Judson. Il est donc parti rendre visite à son oncle Ephraim à Sheffield, mais là il a rencontré à sa place un jeune homme pieux, croyant sérieux, fervent, qu'il a un peu amusé par la fermeté de ses convictions chrétiennes, sans pour autant être austère et dictatorial. Étonnant qu'il trouve là ce jeune homme, vraiment profondément croyant, au lieu de son oncle qu'il cherchait. Le soir suivant, il s'est arrêté dans l'auberge d'un petit village où il n'avait jamais séjourné auparavant. L'aubergiste l'a prié d'excuser le dérangement éventuel, car son sommeil risquait d'être interrompu par un homme très, très gravement malade dans la chambre voisine. Toute la nuit, Judson, il a entendu des allées et venues, des discussions à voix basse, beaucoup de gémissements et des râles. Il était tracassé à l'idée que l'homme de l'autre côté de la cloison n'était peut-être pas prêt du tout à mourir. Alors il s'est mis à songer à lui-même et d'horribles pensées sur sa propre mort ont alors occupé son esprit. Il en a ensuite conclu qu'il était peut-être stupide, car les vrais déistes, donc à ceux qui sont pas croyants, ne sont pas supposés avoir de telles préoccupations. Et avant de reprendre sa route le lendemain matin, il s'est tout de même enquis de la santé de l'homme de la chambre voisine. On lui a répondu : il est mort. Il est mort, lui a répondu l'aubergiste. Judson a été très frappé par le dénouement de cette histoire. Aussi, en sortant, il a demandé « Saviez-vous De qui il s'agissait ? Oh oui ! C'était un jeune homme de l'université de Providence du nom de Immens, Jacob. Jacob Immens. Hudson pouvait à peine bouger. Il est resté là pendant des heures durant, c'est vrai, méditant sur la mort et sur l'éternité. Car de l'autre côté de la cloison, c'était son ami Amos. Et Amos disait vrai, ce n'était qu'un fait sans importance, peut-être. Mais Hudson ne pouvait y croire. Cet enfer s'était ouvert dans cette auberge de campagne et avait happé Jacob Immens. C'était son cher ami, c'était son guide qui gisait là sur le lit voisin mort. Cela ne pouvait pas tout simplement être une coïncidence, pas du tout. Dieu était réel et il poursuivait Adoniram Hudson. Dieu savait donc quel homme il voulait pour atteindre le peuple birman. La conversion de Hudson ne s'est pas opérée immédiatement, mais elle était inéluctable. Dieu venait à sa rencontre comme pour l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, et il n'y avait pas d'échappatoire. Il y a eu des mois de lutte, et Hudson est entré à la faculté de théologie d'Andover en octobre et s'est solennellement consacré à Dieu en décembre. Il se présentait aux congrégationalistes pour effectuer un service missionnaire en Orient. Le même jour, il a rencontré Anne et il est tombé amoureux d'elle. Un mois après avoir fait la connaissance d'Anne Haseltine, il lui a déclaré ses intentions de lui faire la cour. Il savait que l'existence qu'il s'apprêtait à vivre ne serait pas seulement rude et risquée, mais aussi caractérisée par la distance. Il ne s'attendait pas du tout à revoir l'Amérique. En fait, voyez-vous, cela lui est arrivé une seule fois, 33 années plus tard, et puis jamais plus. Sa merveilleuse femme, Anne, on a dit qu'elle s'appelait Anne, elle est partie avec lui et elle est morte en Birmanie. Voici la lettre que Hudson a adressée au père de la jeune femme pour lui demander de la laisser se joindre à sa mission avant son décès. Il a écrit ceci. « Je dois vous demander à présent si vous consentez à vous séparer de votre fille dès le début du printemps prochain pour ne plus jamais peut-être la revoir ici-bas, si vous consentez à son départ, à son exposition, aux épreuves et aux souffrances de la vie missionnaire, aux dangers de l'océan, à l'influence fatale du climat de l'Inde, à toutes sortes de manques et de détresses, peut-être même à la misère, aux insultes, à la persécution et peut-être même à une mort violente, avez-vous la capacité de consentir à tout cela pour la cause de celui qui a laissé sa demeure céleste afin de venir mourir pour elle, pour moi, comme pour vous, pour la cause des âmes immortelles qui périssent autour de nous. Et la gloire de Dieu, évidemment. Pouvez-vous, cher Père, consentir à tout cela avec l'espérance de retrouver bientôt votre fille uniquement dans la gloire, parée de la couronne de justice, illuminée par les acclamations de louanges qui rendront à son Sauveur des peuples païens sauvés, sauvés de la honte et du désespoir éternel par son moyen. Le père d'Anne a laissé totalement sa fille à décider de son sort. Aussi, elle a été d'accord. Chers amis, Dieu ne nous appelle pas à la facilité, pas du tout, mais il nous appelle à une joie faite de fidélité. Il se rapproche de certains d'entre nous en souriant, les yeux baignés de larmes, sachant quelle part de lui-même il va nous révéler et combien cela va coûter. Tout en vous parlant maintenant, eh bien je prie, mes chers amis, que aucun de mes auditeurs, que aucune des auditrices ne se détourne de notre Seigneur bien-aimé. Chers amis, si nous éprouvons de la compassion à l'égard de ceux qui périssent ainsi qu'une passion pour la renommée de Jésus-Christ, eh bien nous devons nous préoccuper, oui, nous devons nous préoccuper de l'œuvre missionnaire dans le monde. Si notre motivation est l'amour pour les hommes, nous consacrerons notre vie à les rendre éternellement heureux en Dieu. Et si notre motivation est la glorification de Jésus-Christ, qui est Dieu incarné, eh bien nous consacrerons aussi notre existence au bonheur des autres en lui. Tout objectif, si généreux soit-il, qui n'est pas accompagné du désir de transmettre à notre prochain la joie éternelle en Dieu, cela équivaut à une condamnation cachée derrière un sourire. L'amour désire toujours ce qu'il y a de meilleur pour autrui, et le meilleur consiste à savourer pleinement et éternellement la personne de Dieu. De même, tout effort d'honorer Jésus-Christ qui ne chercherait pas à le présenter comme étant le trésor apte à satisfaire pleinement des serviteurs infidèles, cela nous rend complices, oui, d'insurrection en quelque sorte. Il faut donc apprécier la valeur de Dieu pour pouvoir le louer. Nous lui rendons hommage lorsqu'il est notre bien le plus précieux. Nous ne pouvons aimer les autres ni honorer Dieu sans accomplir les deux. C'est donc ainsi une passion unique, c'est celle de voir Jésus-Christ glorifié par le fait que des perdus puissent trouver la satisfaction éternelle en lui, qui réside la gigantesque entreprise que nous appelons l'œuvre missionnaire dans le monde. Le grand ordre de mission qui a été adressé dans le Nouveau Testament par Jésus-Christ ressuscité, c'est que tout pouvoir m'a été donné, a dit Jésus, m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il a dit, allez donc et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Saint Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20. Le puissant témoignage de la vie de l'apôtre Paul dédié à cette mission est le suivant. Paul a dit, « Je me suis fait un point d'honneur d'annoncer l'évangile là où Jésus-Christ n'avait pas été annoncé afin de ne pas bâtir sur les fondations posées par un autre. Mais comme il est écrit, ceux à qui il n'avait pas été annoncé verront et ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. » Romains, chapitre 15, versets 20 et 21. Le splendide tableau du résultat final du plan de Dieu dans l'histoire, c'est, écoutez bien cela, et notez, dit Offenbarung, donc Apocalypse, chapitre 5, versets 9 et 10. Il est dit, il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne, tu es seul digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu, ton Père, par ton sang précieux, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Oui, nous croyons que la mission confiée par le Seigneur Jésus de faire des disciples de toutes les nations est contraignante pour son Église aujourd'hui encore. Cette tâche, elle consiste à annoncer l'Évangile à chaque tribu, chaque langue, chaque peuple et chaque nation en les baptisant, en leur enseignant les paroles et les voies du Seigneur et en les rassemblant à l'intérieur de communautés capables d'accomplir leur vocation chrétienne dans leur entourage. L'objectif suprême de la mission mondiale, c'est que Dieu crée par sa sainte parole, il a créé des adorateurs qui glorifient son saint nom au travers d'une foi et au travers d'une obéissance joyeuse. Les missions existent donc parce que l'adoration fait défaut. Je ne prétends pas que cela soit facile de comprendre. Quand notre ère sera passée et que d'innombrables millions de rachetés tomberont sur le visage devant le trône de Dieu, les missions n'existeront plus. Elles sont juste une nécessité temporaire. l'adoration, elle, cette adoration ne cessera jamais. L'adoration est donc, par conséquent, le carburant et c'est l'objectif de la mission. Voici le plus grand des tableaux. C'est Jésus-Christ qui est venu, il est mort et il est ressuscité afin de rassembler une joyeuse et innombrable équipe issue de tous les peuples de la terre, tout cela à la gloire de son saint nom. Tel devrait donc être le rêve de chaque chrétien. Je dis cela avec prudence, à cause de ce que j'ai dit au chapitre 8 concernant les vocations séculières. Il est crucial que des millions de chrétiens répondent à leur appel dans des emplois séculiers, de même qu'il est crucial que dans un temps de guerre, toute la trame de la vie et de la société ne disparaisse pas. Nous devrions donc aimer entendre parler de la progression du royaume de Jésus-Christ, des triomphes de l'Évangile au fur et à mesure que le Seigneur implante son Église parmi des peuples retenus prisonniers, oui, retenus depuis des siècles par les forces occultes des ténèbres. Tel est donc le dessein de Dieu dans l'histoire mondiale, que des hommes et des femmes, de tout peuple, de toute nation et de toute langue, qui viennent pour adorer et chérir Jésus-Christ comme étant le plus grand des trésors, ou pour rendre les termes de l'apôtre Paul, où il a dit en Romains chapitre 15, verset 9, que les païens, oui, tous les peuples, glorifient Dieu à cause de sa bonté. En tant que peuple de Dieu, nous ne pouvons nous permettre de renoncer à ce combat par lassitude ou par lâcheté. Nous ne pouvons faire preuve d'un sentiment de satisfaction bien égoïste. Alors que Jésus-Christ est un inconnu pour les milliers de personnes qui n'ont pas encore entendu l'Évangile, et je dirais pour des millions, chaque chrétien qui aime les autres et qui honore Jésus-Christ doit donc s'intéresser à ce combat. Ce qui constitue l'Évangile, n'est-ce pas le pardon des péchés? N'est-ce pas l'espérance de la vie éternelle, la plénitude du Saint-Esprit et la transformation à l'image de Jésus qui fait de nous de meilleures mères ou de meilleures filles, de meilleurs père ou fils, de meilleurs amis, employés et citoyens? Eh bien, la réponse est bien entendu affirmative. Alléluia. Et voilà donc pourquoi j'insiste et je vous supplie au nom de Jésus de vous réveiller, d'élargir votre cœur, de renouveler votre pensée et de déployer vos ailes. Prenez de la hauteur par rapport à votre vie qui est, somme toute, limitée. Une vie importante, certes, dont Dieu ne déconsidère pas la valeur, et considérez le tableau grandiose et passionnant que brossent les projets divins pour l'histoire du monde, des projets, oui, des projets qui ne peuvent échouer, car Dieu dit, et notez Ésaïe 46, verset 10, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Et notez encore Philippiens, chapitre 2, versets 10 et 11. Que au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et notez encore Saint Matthieu, chapitre 24, verset 14, où il est dit que cette bonne nouvelle du royaume, elle sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, ensuite, viendra la fin. Ne vous offusquez donc surtout pas, mais joignez-vous à la joyeuse équipe. Alors que Dieu vous donne des ailes pour vous élever, et vous permettre de voir le monde tel qu'il le voit. Je prie pour que beaucoup d'entre vous soient détachés de leur situation présente, telle que le travail, le quartier, la région, la nation, leur projet, et qu'ils soient appelés à s'engager directement en tant qu'envoyé, et pas seulement en tant que membre de l'équipe d'envoi, dans ce grand projet divin d'ordre historique et mondial. Qu'aucune personne engagée dans un ministère au niveau local ou occupant un poste clé dans le monde ne s'offusque de cette prière, je vous en prie. Mais réjouissez-vous, au contraire, car vous êtes libre de rester comme de partir. Beaucoup doivent évidemment rester. Leur présence, elle est cruciale et vitale pour les projets de Dieu là où il les a placés, mais aussi là où ils sont absents et où d'autres se rendront. Il n'y a donc aucune raison de culpabiliser ou d'éprouver du ressentiment. En revanche, il y a un grand besoin de joyeuse collaboration. Ceux qui restent, l'équipe d'envoi, devrait garder la vérité remarquable que voici à l'esprit. La mission à l'étranger, elle fait office de validation pour tous les ministères de compassion exercés à la base, car elle les prolonge et elle les élargit. Donc implanter une église au sein d'un peuple qui n'a pas encore entendu l'Évangile, cela revient vraiment à fonder une base d'opération pour toute la générosité que Jésus a ordonnée en faveur des pauvres. Voyez-vous, si nous ne laissons pas briller notre lumière devant les personnes qui sont à notre porte, afin qu'elles voient nos bonnes œuvres et qu'elles glorifient notre Père qui est dans les cieux, selon Saint Matthieu 5, verset 16, quelle forme d'obéissance exporterons-nous alors? Dans le grand ordre de mission figurent les paroles suivantes. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que Jésus vous a prescrit. Saint Matthieu, chapitre 28, verset 20. Qu'a-t-il prescrit Jésus ? Il a raconté l'histoire de l'homme blessé et désespéré qui a été secouru par un Samaritain qui a agi avec bonté envers lui. Puis il a dit « Va, et toi, fais de même. » Saint Luc, chapitre 10, verset 37. Même en restant dans notre pays, nous sommes entourés de besoins, et oui, il nous faut juste des yeux capables de les voir et un cœur qui ne se satisfait pas de changer simplement de trottoir. C'est un défi inséparable de celui de la mission. C'est de faire preuve d'une compassion toute concrète envers les pauvres. C'est de révéler la beauté de Jésus-Christ sur notre propre sol, et cela rend crédible l'exportation de la foi chrétienne. Nous faisons donc preuve d'hypocrisie si nous nous montrons enthousiastes uniquement pour la mission à l'étranger, tout en ignorant totalement la misère de nos concitoyens autour de nous. Voyez-vous, l'histoire du bon Samaritain, elle révèle une grave lacune chez le sacrificateur et chez le Lévite. Ils avaient des objectifs religieux nobles, mais ils n'étaient pas affectés par la souffrance proche dont ils étaient les témoins oculaires et qui exigeait d'eux qu'ils se salissent un peu les mains. Les ministères de compassion envers nos proches confirment l'authenticité de notre intérêt pour le peuple lointain. La mission à l'étranger et l'exercice de la compassion chez nous, tout cela est lié par la nature même de l'Évangile qu'il nous faut annoncer aux nations. Il est dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Le salut dont nous jouissons et que nous apportons aux autres, cela correspond à un ministère de compassion exercé par Dieu envers les pauvres dont nous faisons partie. Nous devons donc, en effet, notre vie, nous avons un devoir de donner notre vie à l'engagement de Dieu pour la mission et envers la compassion. Il a parcouru un très long chemin pour nous venir en aide, et son aide, elle inclut tout ce dont nous avons besoin. Il s'est sali à la tâche. En fait, Jésus a même été tué. Cette souffrance empreinte de compassion, elle est à la fois le moyen et l'objectif de notre salut. De fait, c'est bien à cela que vous avez été appelés, parce que Jésus-Christ aussi, il a souffert pour nous. Oui, et comment? Il vous a été un exemple afin que vous suiviez ses traces. C'est 1er épître de Pierre, chapitre 2, verset 21. Là, on peut dire que nous pouvons suivre ses traces. Donc, la mission et la compassion, elles sont étroitement liées parce que l'évangile que nous apportons aux nations, elle ordonne la compassion envers les pauvres qui se trouvent devant notre porte et en donne le modèle. Voici, chers amis, l'accablante comparaison d'un nommé Warfield. Warfield n'a jamais lu une meilleure déclaration sur le lien que la situation suivante de B. Warfield, enseignant à la faculté de théologie de Princeton, décédé en 1921. Il répondait à des interrogations pleines de scepticisme sur le ministère auprès des pauvres et ce en le comparant au ministère de Jésus-Christ envers nous. Il a dit « À présent, mes chers chrétiens, certains d'entre vous prient nuit et jour pour être des sarments du vrai cep et être entièrement changés à l'image de Jésus-Christ. Si telle est votre prière, alors vous lui ressemblez certainement en termes de générosité. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Première objection, vous dites, mais mon argent m'appartient à moi. La réponse de Jésus-Christ aurait pu dire, mais mon sang, il n'est que à moi. Ma vie, elle m'appartient. Où serions-nous, chers amis? Je vous le demande. Deuxième objection. Les pauvres n'ont aucun mérite. La réponse de Jésus, il pourrait dire, « Oh, ce ne sont que des méchants rebelles. Vais-je livrer ma vie pour de telles personnes? Je vais me montrer généreux uniquement envers mes fidèles anges. » Eh bien non, 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 non. Jésus a laissé les 99 brebis pour partir à la recherche de la brebis égarée. Il a versé son sang pour le bénéfice de tous ceux qui ne le méritaient absolument pas, moi y compris. Troisième objection, les pauvres vont peut-être en abuser. La réponse de Jésus aurait pu dire absolument la même chose, avec bien plus de réalisme, car il savait que des milliers de personnes piétineraient son sang précieux et que la plupart le mépriseraient et que beaucoup y trouveraient une excuse pour pécher encore davantage. Néanmoins, Jésus a offert son propre sang. Oui, mes chers chrétiens, si vous souhaitez de ressembler à Jésus-Christ, eh bien, donnez librement aux méchants et aux pauvres, à l'ingrat et à celui qui ne le mérite pas. Et là, vous serez alors comme Jésus-Christ, glorieux et radieux. Ce n'est pas votre argent que je désire, mais c'est votre bonheur. Rappelez-vous ses propres paroles, qu'il y a plus de bonheur à donner que à recevoir. Il n'est pas du tout légitime de présumer, chers amis, que l'on peut envoyer ce que l'on ne possède évidemment pas. Mais il n'est pas légitime non plus de posséder un trésor et de ne le jamais partager avec qui que ce soit. Mes chers amis, pour son propre bien, l'Église, elle doit s'investir dans la mission. Nous ne pourrons pas connaître Dieu dans toute sa splendeur tant que nous ne le verrons pas triomphant parmi les nations. Nous ne pourrons pas l'admirer et le louer comme nous devrions le faire tant que nous ne verrons pas se constituer un cortège d'adorateurs à la gloire de son Saint-Nom, issus de tous les peuples de la terre, y compris de ceux à majorité musulmane, hindoue ou bouddhiste. Rien n'élargit autant notre vision de la grâce triomphante de Dieu que la perspective de son œuvre rédemptrice dans l'histoire. Et quelle histoire ! Notez s'il vous plaît le psaume 77, versets 12 et 13. Là il est dit « Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car il me souvient, oui, je me souviens de tes merveilles d'autrefois, et je parlerai de toutes tes œuvres, et je raconterai tous tes hauts faits. » Psaume 77, versets 12 et 13. Oui, voici l'appel de Dieu à notre génération actuelle. Écoutez bien. L'appel est lancé à notre génération de obéir à Christ ressuscité et faire des disciples de tous les peuples non évangélisés du monde. Je prie donc que Dieu suscite des centaines de milliers de jeunes gens comme de retraités, c'est-à-dire des personnes qui terminent une carrière et qui soient prêts à en entamer une seconde dans le service chrétien, pour autant qu'ils soient en santé. Et je prie que cet appel divin, issu de la joie et non pas de la culpabilité, qu'elle naisse dans le cœur. Et je prie qu'il soit confirmé par les dons nécessaires ainsi que par un désir irrésistible, par la confirmation de leur Église et par les attestations divines. Attisez donc la flamme en lisant des biographies, en méditant sur les saintes écritures, en étudiant les peuples qui n'ont pas encore été évangélisés et en priant pour être passionnés et en conversant avec d'anciens missionnaires. S'il vous plaît, ne fuyez pas cet appel, mais cherchez à vous en rapprocher. Pour terminer cette étude numéro 9, je demande aux chers amis que Dieu nous donne une vision renouvelée de ce que est une vie consacrée totalement à l'honneur de Jésus-Christ, soit que nous partions évangéliser des peuples ignorants, encore qui ignorent totalement la bonne nouvelle, soit que nous gardions notre situation actuelle suite à une conviction et en portant des fruits autour de nous. Donc, que notre vision de la vie, qu'elle soit toujours inspirée par le grand projet divin, c'est de rendre les nations heureuses en Jésus-Christ. Que la croix de Christ soit notre seule gloire et que nous puissions toujours, toujours dire avec une douce assurance, pour moi, vivre, c'est Jésus-Christ, et mourir, cela m'est un gain. Amen. Amen. Et chers amis, maintenant, j'aimerais vous transmettre quelque chose que le Seigneur m'a donné pour vous encourager, mais aussi pour votre enseignement personnel. Oui, écoutez bien. Chers amis, n'enviez point les autres si vous les voyez honorés et élevés, tandis qu'on vous méprise et qu'on vous humilie. Élevez votre cœur au ciel vers Jésus-Christ et vous ne vous affligerez point d'être méprisé des hommes sur la terre. Seigneur, nous sommes aveugles et la vanité nous séduit bien vite. La honte et le mépris, voilà donc ce qui m'est dû. Et à toi, Seigneur, la louange, l'honneur et la gloire. Mais si vous cherchez votre appui dans la vérité immuable et toujours vivante, eh bien, vous ne serez point accablé de tristesse quand un ami s'éloigne ou qu'il meurt. Toute amitié, elle doit être fondée sur Jésus-Christ. Et c'est pour lui que vous devez aimer tous ceux qui vous paraissent aimables et qui vous sont les plus chers en cette vie. Sans le Seigneur, l'amitié est stérile et elle dure peu. Et toute affection dont il n'est pas le lien n'est ni véritable ni pure. Plus l'homme s'éloigne des consolations de la terre, plus il s'approche de Dieu, et il s'élève d'autant plus vers Dieu qu'il descend plus profondément en lui-même et qu'il est plus vil à ses propres yeux. Celui qui s'attribue quelque bien empêche que la grâce de Dieu ne descende en lui, parce que la grâce de l'Esprit Saint, elle cherche toujours les cœurs humbles. Si vous saviez vous anéantir parfaitement et bannir de votre cœur tout amour de la créature, alors venant à vous, Jésus-Christ vous inondera de sa grâce. Quand vous regardez trop la créature, vous perdez de vue le Créateur. Apprenez donc à vous vaincre en tout à cause de Jésus, et vous pourrez alors parvenir à le connaître. Le plus petit objet désiré, aimé avec excès, cela souille l'âme et cela sépare du souverain Sauveur et Seigneur. Amen. Et maintenant, prions ensemble. Seigneur Dieu, ô notre Père, nous te louons, nous te célébrons, nous te magnifions et nous te rendons grâce. Tu as réalisé ta promesse, tu as répandu ton Esprit Saint et tu as fondé une communauté spirituelle, l'Église, à travers laquelle des fleuves d'eau vive ont pu couler jusqu'à nous. Oh, nous aurions pu, nous aussi, devenir des hommes de l'Esprit, mais nous ne l'avons pas voulu parce que il risquait de nous arracher à notre quiétude, de déraciner notre égoïsme, et je parle pour moi, de manifester notre péché, de tout bouleverser en nous. Oui, Père, pardonne notre tiédeur, nous soupirons après toi. Du fond de nos cœurs, nous t'en supplions, donne-nous ton Esprit Saint, écarte toi-même du chemin tous les obstacles qui nous ont nous-mêmes lui barre la route, et il y en a. Oh oui, unis par le lien sacré de ton Esprit Saint, unis tous ceux qui prennent au sérieux leur qualité de chrétien et animent, réchauffent, embrasent de ton Esprit Saint toujours plus d'hommes et de femmes, et fait de nous-mêmes ses messagers, ses annonciateurs, ses instruments. Oui, submerge de tes vagues au Saint-Esprit le monde entier et fais-le frémir à ton souffle et consume-le de tes feux. Amen. Amen. Et j'aimerais maintenant vous mettre encore un ou deux chants d'un très lointain passé, oui, 1960. J'avais enregistré cela avec un Revox à bande. Bien sûr, la netteté a beaucoup perdu et parfois il y a même des ratés. Mais avant, souvenez-vous, que Dieu vous aime. Oui, surtout si vous vous êtes donné à lui corps, âme et esprit, que vous l'avez accepté pour votre Sauveur et Seigneur, alors sachez que Dieu vous aime. Et il est donc de mon devoir de vous aimer de tout mon cœur. Et là où vous êtes maintenant, je vous enlace et je vous embrasse tous. Et je vous dis, soyez bénis en et par Jésus-Christ. Amen. Et à demain matin, Dieu voulant, pour la fin de cette série. Mais essayons tout de même de voir si ça fonctionne, ces chants d'autrefois.
We're the power. Aujourd'hui, notre corps, qui est autrefois l'habitation de démons, d'esprits impurs, aujourd'hui est devenu le temple du Saint-Esprit.
Amen.
Alléluia. Et ça fait 22 ans que ça dure. Et je suis pleinement comblé, satisfait, riche et heureux depuis que le Seigneur habite mon cœur. Alléluia. Alors c'est pour cela que je le loue, que je le chante. Alléluia. Ton peuple te loue, Seigneur.
Amen.
Alléluia. Tout la vérité, we are going to see the king.
Amen.
Amen. Alléluia. Parce qu'il est bon de louer le Seigneur, mais il est malsain de critiquer son frère ou sa soeur, ou de critiquer le serviteur de Dieu. Mais il est bon de louer le Seigneur.
Amen.
Si notre bouche a été crucifiée, si elle est descendue dans le tombeau, si elle est ressuscitée, notre bouche avec le Seigneur, alors nous sommes appelés comme ambassadeurs, comme une bonne odeur pour lui, à chanter, à célébrer son nom, à chanter le Seigneur. Moi, j'aime les chrétiens qui louent, Seigneur.
Alléluia.
Parce que, pour ma part, je le dis souvent, j'ai demandé une faveur au Seigneur. Quand je vais rentrer dans son royaume, j'ai demandé une place à côté de David.
Amen.
Ah oui, ça c'est une bonne place. Parce que David, il connaissait le secret de la victoire. C'était un homme qui aimait louer le Seigneur. Il dit même lui-même, même si une armée se campait autour de moi, ce serait malgré cela plein de confiance.
Amen.
Une armée. Des fois, nous, quand on a quelqu'un qui nous critique, on est déjà devant Paris. Mais lui, pour une armée. Et malgré cela, il était plein de confiance.
Amen.
Eh bien, moi, je veux louer le Seigneur.
Amen.
Comme David. Je voulais savoir jouer l'harpe comme lui. Hein. Mais j'aime David parce qu'il connaissait la puissance de la louange. Et frères et sœurs, c'est vrai que votre présence sera inutile. Si vous ne rentrez pas dans cette dimension nouvelle de la louange,
Alléluia.
Il faut rentrer avec nous dans la louange.
Alléluia.
Savez-vous que la louange libère ? La louange, j'ai jamais vu quelqu'un qui loue le Seigneur qui est triste. C'est vrai, hein ? Alléluia. Voyez ? Il loue le Seigneur, voilà, un adorateur. qu'il adore en esprit, en vérité. Alors nous allons rechanter ton peuple, te Seigneur. Oh oui, ton peuple. Amen. Soyez dans la joie, soyez détendus. C'est une fête de famille, la Pentecôte.
Amen.
Hein? C'est une grande famille, c'est la famille de Dieu. Amen. Alléluia. Ton peuple, j'aimerais bien regarder vos yeux quand vous allez le voir. Vos yeux vont briller de contemplation. Ah, vous serez remplis, oh, contemplez la magnificence de notre Seigneur, du grand roi, celui qui nous a tant aimés, celui qui pendant des années a été avec nous, qui nous a relevés, qui nous a consolés. Oh là là, je crois qu'on va tous courir se pendre à son cou. Comme disait un brave frère martiniquais, quand il m'embrassait, il me disait tout à bien, je vais te faire un lavage et saut. Alors il m'embrassait. Oh là là là, il était tellement... Mais je ne sais pas comment je vais embrasser le Seigneur, mais je vais l'embrasser, c'est sûr. Parce que je l'aime. Parce qu'il est toute ma joie. Il est mon soutien. Et si je le sers, je ne sers pas les hommes, je sers Jésus. Je ne sers ni aucune dénomination, ni aucune religion, mais je sers le Seigneur.
Amen.